Chapitre 39. Une coupe de vin. Lorsqu'Elaine arriva sur le pont avec ses affaires soigneusement emballées dans un baluchon, le soleil couchant commençait à peine à toucher la ligne de l'eau, à l'horizon du port de Tanchico. Sur un des nombreux quais de la péninsule la plus à l'ouest de la ville, des hommes finissaient d'attacher les amarres qui maintiendraient dans sa position actuelle le voltigeur des flots. À bord, quelques marins finissaient de ferler les voiles. Au-delà des quais, la ville bâtie sur des collines brillait de tous les feux de ses dômes et de ses minarets blancs. Sur les toits des maisons, des girouettes polies étincelaient. Un peu moins d'une demi-lieue vers le nord, Elaine aperçut ce qui devait être la muraille ronde du Grand Cercle, si ses souvenirs ne la trompaient pas. Accrochant le baluchon à son épaule gauche, où pendait déjà son écritoire de cuir, elle alla rejoindre Nineveh près de la rampe de débarquement, où se trouvaient aussi Coin et Jorin. Revoir les deux sœurs vêtues d'un chemisier de soie au-dessus de leurs pantalons bouffants fit un drôle d'effet à la fille héritière. Avec le temps, elle s'était habituée aux boucles d'oreilles et surtout aux anneaux dans le nez qu'arboraient les deux femmes. La fine chaîne qui barrait la joue de chaque sœur ne lui arrachait même plus une moue dubitative. L'air maussade, Tom et Jwilin se tenaient un peu à l'écart, leur baluchon à l'épaule. À leur sujet, Nineveh ne s'était pas trompée. Dès qu'ils avaient été informés du véritable but de ce voyage, partiellement du moins, ils avaient commencé à renâcler. À les entendre, deux jeunes femmes n'étaient pas assez compétentes, pour traquer l'âge à noir. Une menace de Nineveh avait étouffé leur révolte dans l'œuf. S'ils ne se calmaient pas, avait dit l'ancienne sage-dame, les deux hommes seraient transférés sur un autre navire du peuple de la mer, en direction de là où ils venaient. Pour que ça fonctionne, il avait fallu que Thoram et une dizaine de marins montrent leur détermination à jeter les troubles faits dans un canot, afin de les conduire sur le nouveau navire. Elaine dévisagea attentivement le trouvert et son compagnon. La morosité n'étant jamais très loin de la rébellion, les problèmes n'étaient pas terminés, ça ne faisait aucun doute.
« Où irez-vous à présent, Coin ?»
demanda Nineveh au moment où Elaine la rejoignait.
« Vers Dantora, puis l'El Jaffar, »
répondit la maîtresse des voiles.
« Puis ce sera Cantorin et l'El Somera, pour répandre la nouvelle de l'avènement du Koramor, si la lumière le veut bien. Mais avant, il faut que je permette à Thoram de faire des affaires ici. Sinon, il me piquera une de ses colères. »
Le mari de la capitaine était déjà sur les quais. Sans ses étranges lentilles géantes devant les yeux, mais avec tous ses anneaux et le torse nu, il discutait âprement avec deux hommes en pantalon blanc et veste brodée de motifs géométriques sur les épaules. Tous deux portaient un étrange chapeau cylindrique et une sorte de voile sur le visage. Un accessoire vestimentaire particulièrement ridicule sur des gaillards affublés d'énormes bacchantes.
« Que la lumière vous protège en chemin !»
dit Nineveh en ajustant son baluchon dans son dos.
« Si nous découvrons une menace qui pourrait vous concerner, avant votre départ bien entendu, nous vous ferons avertir. »
Coin et sa sœur affichaient un calme impressionnant. L'âge à noir ne semblait pas les inquiéter le moins du monde. Tout ce qui comptait pour elle, c'était le Koramor, également appelé Rand. Jorin s'embrassa le bout des doigts et les posa sur les lèvres d'Elaine.
« Si la lumière le veut, nous nous reverrons. »« Oui, si la lumière le veut. »
Elaine imita le geste rituel de la régente des vents. Une coutume déconcertante, mais surtout un honneur. Car cette effusion était en principe réservée aux parents proches et aux amoureux. Jorin allait lui manquer, elle en avait la certitude. Avec elle, elle avait beaucoup appris et un peu enseigné. Désormais, la régente des vents tisserait sûrement beaucoup mieux le feu. Lorsqu'elle mit enfin le pied sur le plancher des vaches, Nineveh soupira de soulagement. Une potion visqueuse fournie par Jorin avait calmé son estomac après deux jours en mer. Malgré ça, jusqu'à l'arrivée à Tanchico, elle avait donné l'impression d'être sur le point de s'évanouir ou de vomir tripes et boyaux. Sans en avoir reçu l'ordre, Tom et Jwilin encadrèrent immédiatement les deux femmes. Tenant son bâton à deux mains, Sandar prit la tête, ses yeux sombres balayant les environs. Merilyn se chargea de l'arrière-garde. Malgré ses cheveux blancs, sa claudication et sa cape multicolore, il parvint à ressembler à un type pas commode et dangereux. Nineveh fit la moue, mais elle choisit de ne rien dire, une décision qu'Elaine approuva. En moins de 50 pas, le long du quai de pierre, une bonne cinquantaine de types aux joues creuses et aux yeux plissés de cupidité avaient regardé passer les deux femmes tout en manipulant des caisses, des balles et des sacs qui devaient être au minimum aussi lourds qu'eux. Et tous ces costauds, soupçonnait Elaine, lui auraient volontiers tranché la gorge dans l'espoir que « robe de soie » rime avec « bourse bien remplie ».
Bien entendu, cet type ne lui faisait pas peur, car elle se sentait de taille à en maîtriser deux ou trois à la fois. Mais Ninevé et elle avaient pris la précaution de cacher leur bague au serpent. Si l'une ou l'autre canalisait le pouvoir devant tant de témoins, autant clamer haut et fort qu'elles étaient liées à la Tour Blanche. Juilin et Tom avaient tout à fait raison de jouer les féroces cartes du corps. Pour l'heure, la fille héritière n'aurait pas vu d'un mauvais œil d'avoir 10 protecteurs de plus. Soudain, quelqu'un cria sur le pont d'un assez petit bateau.
« Vous ! C'est bien vous ! »
Vêtu de soie verte, un colosse au visage rond sauta sur le pont. Ignorant la menace de Juilin, qui venait de lever son bâton, il se campa devant les deux femmes. Comme son accent, sa barbe dépourvue de moustache trahissait ses origines iliadiennes. Elaine lui trouva un air vaguement familier.
« Maître Domon ?»
fit Ninevé en tirant nerveusement sur sa natte.
« Bail Domon ?»
L'homme acquiesça.
« En personne ! Je ne pensais pas vous revoir un jour. À Falm, j'ai attendu aussi longtemps que possible, mais j'ai dû finir par appareiller pour qu'on n'incendie pas mon bateau.
« Vous rencontrer est un plaisir. »
dit Ninevé, d'un ton qui démentait ses propos.
« Mais si vous voulez bien nous excuser, nous devons trouver des chambres en ville. »«
Ce sera difficile. Tranchico prend l'eau de toutes parts, vous savez. Mais je connais un endroit où ma recommandation pourrait faire son petit effet. Je n'ai pas pu vous attendre plus longtemps, à Falm, et depuis, j'ai le sentiment de vous devoir quelque chose. »
Domon marqua une pause, l'air troublé.
« Vous êtes ici. Dois-je comprendre que ce qui est arrivé à Falm va se reproduire ?»«
Non, maître Domon. »
dit Elaine, quand elle vit Ninevé hésiter à répondre.
« Bien sûr que non. Et nous serons ravis d'accepter votre aide. »
À la grande surprise de la fille héritière, Ninevé n'émit aucune objection. Hochant pensivement la tête, elle présenta Juilin et Tom au capitaine. La cape du trou vert fit tressaillir Domon, et la tenue terrienne de Juilin lui fit froncer les sourcils. Sans se démonter, Sandar fronça les siens en retour. Les deux hommes n'échangèrent cependant aucune remarque acerbe. Avec un peu de chance, l'atavique hostilité entre le royaume de Théar et Liliane n'aurait pas droit de citer à Tanchico. Dans le cas contraire, il faudrait intervenir vite et fermement. En remontant le quai, Domon raconta aux deux femmes ce qui lui était arrivé depuis Falm. À l'évidence, il s'en était très bien sorti.
Une dizaine de très bons caboteurs dont les collecteurs d'impôts de la Panarche ne savent rien, sans oublier 4 navires de haute mer.
En si peu de temps, le capitaine ne pouvait guère avoir acquis honnêtement une telle flotte. Elaine fut choquée qu'il évoque ses activités en public.
Oui, je fais de la contrebande, et ma bourse grossit à une vitesse que je n'aurais pas cru possible. Une commission de 10% sur mon bénéfice incite les douaniers à détourner le regard et à rester muets comme des tombes.
Les mains dans le dos, deux habitants de Tanchico arborant leurs voiles et leurs chapeaux ronds croisèrent le petit groupe. Une lourde clé de cuivre accrochée à une épaisse chaîne pendait autour de leur cou, sans doute le symbole d'une charge. En passant, ils saluèrent Domon de la tête. Tom parut amusé, mais Juilin foudroya du regard le contrebandier et ses deux complices. En bon pisteur de voleurs, il détestait qu'on se montre indélicat vis-à-vis de la loi, et il ne le cachait pas.
« Mais cette prospérité ne durera plus longtemps, »
reprit Domon.
« En Arad-Doman, les choses sont encore pires qu'ici. Et pourtant, il n'y a aucune raison de se réjouir. Le seigneur dragon n'a pas encore disloqué le monde, mais il ne reste pas grand-chose du Tarabon et de l'Arad-Doman. »
Elaine s'apprêta à lancer une remarque acerbe au capitaine. Voyant qu'ils étaient sortis des quais, elle regarda en silence tandis que Domon leur louait des chaises, des porteurs et une dizaine de gardes du corps patibulaire armés de solides bâtons. Des sentinelles équipées d'une lance et d'une épée étaient en poste au bout du quai. Mais ces hommes avaient l'air de mercenaires, pas de soldats réguliers. De l'autre côté de la large avenue, des centaines de miséreux au visage ravagé regardaient fixement les hommes qui les empêchaient d'accéder au bateau. Se souvenant du récit de Coyne, dont le navire avait à un moment été pris d'assaut par des citadins avides de quitter Tanchico, Elaine frissonna. Quand leurs regards se portaient sur les bateaux, les yeux de ces hommes et de ces femmes brillaient de convoitise. Tôt ou tard, ils ne se contenteraient plus de regarder de loin le salut. Durant le trajet, alors que les gardes du corps jouaient du bâton pour dégager le chemin, Elaine se tint très raide dans la chaise à porteur, le regard rivé devant elle pour ne surtout rien voir de ce qui se passait autour. Le désespoir de ces gens lui serrait le cœur. Que faisait donc leur roi? Pourquoi les avait-il abandonnés ainsi? Située au-delà du grand cercle, l'auberge choisie par Domon, un bâtiment au mur de plâtre blanc, s'appelait le Jardin aux Trois Pruniers. En guise de jardin, cependant, Elaine vit seulement une grande cour pavée entourée de hauts murs. L'auberge elle-même, un simple cube à deux étages, se distinguait par son rez-de-chaussée sans fenêtre, celle des deux étages étant protégée par une grille tarabiscotée en fer forgé. Dans la salle commune, les clients et les clientes, presque tous du coin si on se fie à leur tenue, faisaient tellement de vacarme qu'on n'entendait presque plus les notes harmonieuses d'un dulcimer à cordes frappées. Ninévé poussa un petit cri lorsqu'elle vit la patronne de l'établissement. À peine plus âgée que l'ancienne sage-dame, les yeux marrons et les cheveux blonds tressés, elle ne parvenait pas à cacher sous son voile une bouche pulpeuse qui évoquait un bouton de rose. Elaine aussi sursauta, mais à bien y regarder, ce n'était pas Liandrine. Nommée Rendra, l'aubergiste semblait très bien connaître Domon. Souriant aux deux femmes, elle s'extasia de recevoir un trou vert chez elle. Annonçant un prix qui devait être inférieur au tarif normal, selon Elaine, elle proposa ses deux dernières chambres libres aux quatre voyageurs. Instruite par l'expérience, Elaine s'assura que Ninévé et elle auraient le plus grand lit. Pour avoir dormi avec l'ancienne sage-dame, elle la savait très portée sur les coups de coude pendant son sommeil. Rendra organisa dans un salon privé un dîner qui fut servi par deux jeunes domestiques voilés. Baissant les yeux sur son assiette, de l'agneau rôti accompagné d'une gelée de pommes épicées et de haricots jaunes accommodés avec des pignons, Elaine comprit qu'elle serait incapable d'y toucher. Tous ses visages affamés la hantaient. Fière de sa fortune et de ses divers trafics, Domon mangea de bon appétit, comme Tom et Julin.
« Rendra, »
dit Ninévé,
« personne n'aide les pauvres dans cette ville. Si ça peut être utile, j'ai la possibilité de donner pas mal d'or pour cette cause.
Vous n'avez qu'à financer la soupe populaire de Bale, »
répondit l'aubergiste en souriant à Domon.
« Cet homme échappe à tous les collecteurs d'impôts afin de se rançonner lui-même. Pour chaque couronne qu'il dépense en pot de vin, il en donne deux pour nourrir les pauvres. Savez-vous qu'il m'a convaincu de contribuer à son œuvre ? Et pourtant, moi, je paie mes impôts. »«
C'est toujours moins coûteux que les impôts !»
se défendit Domon, comme s'il ne voulait pas entacher son image de cynique.
« Je me remplis sacrément les poches. Que la bonne fortune m'en soit témoin. »«
J'apprécie que vous aimiez aider les gens, maître Domon. »
dit Ninévé quand Rendra et les deux serviteurs furent partis. Tom et Julin se levèrent pour vérifier que l'aubergiste et ses employés ne jouaient pas aux espions. Avec une révérence ironique, Tom laissa Julin ouvrir la porte et constater que le couloir était désert.
« Nous aurons peut-être besoin de votre assistance. »
reprit Ninévé. La fourchette et le couteau du capitaine s'immobilisèrent au-dessus du morceau d'agneau qu'il s'apprêtait à couper.
« Et en quelle façon ?»«
Je ne sais pas trop, maître Domon. Ayant des navires, vous devez avoir aussi des hommes. » Il nous faudra des yeux et des oreilles. Des membres de l'âge à noir sont peut-être à Tanchico. Si c'est le cas, nous sommes ici pour les trouver. »
Ninévé porta à sa bouche une fourchetée de haricots, comme si elle venait d'évoquer la pluie et le beau temps. Ces derniers temps, s'inquiéta Elaine, elle parlait de l'âge à noir à tort et à travers. Domon en resta bouche bée, puis il jeta un coup d'œil incrédule à Tom et à Julin, qui venaient de se rasseoir. Les voyant acquiescer, Domon repoussa son assiette et se prit la tête à deux mains. Remarquant la grimace de Ninévé, Elaine redouta qu'elle flanque une gifle au capitaine. Une réaction assez compréhensible. Pourquoi avait-il eu besoin que deux hommes confirment ce qu'elle venait de dire ? Domon finit par relever la tête.
« Et voilà, ça va recommencer. Falm, du début à la fin. Il est peut-être temps que je m'en aille. Si je vais en Ilian avec mes bateaux, j'y serai un homme riche, comme ici. »
« Je doute que vous trouviez votre pays accueillant. »
lâcha Ninévé.
« D'après ce qu'on dit, c'est Samael qui le dirige en sous-main. Sous la coupe d'un rejeté, vous risquez de ne pas profiter longtemps de votre fortune. »
Les yeux de Domon faillirent jaillir de leurs orbites. Imperturbable, Ninévé enchaîna.
« Il n'y a plus d'endroit sûr, capitaine. Vous pouvez détaler comme un lapin, mais vous n'aurez nulle part où vous cacher. Ne vaut-il pas mieux essayer de faire face à l'adversité, comme un homme digne de ce nom ?»
Cette fois, jugea Elaine, Ninévé y allait trop fort. Mais il fallait toujours qu'elle bouscule les gens. La fille héritière sourit, puis posa une main sur le bras de Domon.
« Capitaine, nous ne cherchons pas à vous intimider, mais nous aurons peut-être vraiment besoin de votre aide. Je sais que vous êtes courageux, sinon vous ne nous auriez pas attendu si longtemps à Falm. Et sachez que nous vous serons très reconnaissants. »«
Parfaitement au point, le petit numéro, »
marmonna le capitaine.
« L'une manie l'aiguillon du bouvier, et l'autre agite la carotte. Très bien, je capitule. Si c'est possible, je vous aiderai. » Mais je ne vous promets pas de rester si ça se passe comme à Falm. »
Pendant le reste du repas, Tom et Julin entreprirent de cuisiner Domon au sujet de Tanchico. Assez finement, Julin procéda indirectement, suggérant à Tom des questions sur les quartiers favoris des voleurs, des coupe-bourses et des mendiants. Il s'intéressa aussi à leur taverne préférée, et aux receleurs avec qui il travaillait. Selon le pisteur, les hors-la-loi dans une cité savaient souvent beaucoup plus de choses que les autorités établies. Sandar évitait de parler directement à Domon, qui maugréait chaque fois qu'il devait répondre à une question relayée par le trouvert. Sinon, il n'y répondait pas, tout simplement. Les sujets qu'aborda directement Tom ne correspondaient pas à son statut d'artiste itinérant. S'intéressant aux nobles et à leurs multiples factions, il voulut tout savoir sur les alliances et les oppositions. Il insista particulièrement sur les buts avoués de chaque groupe. Les actes de leurs membres avaient-ils des résultats différents de ce qui était officiellement visé? Faisaient-ils avancer les choses pour de bon ou simplement en surface? Même après leurs nombreuses conversations sur le voltigeur des flots, Elaine n'aurait pas cru que Tom poserait des questions si pertinentes. Durant la traversée, il n'avait jamais refusé de lui parler, semblant même apprécier leur tête-à-tête. Mais chaque fois qu'elle avait cru pouvoir découvrir quelque chose sur son passé, il s'était débrouillé pour lui glisser entre les doigts comme une anguille avant de mettre un terme à leur entretien. En tout cas, Domon mit bien plus d'enthousiasme à renseigner Tom lorsque les questions venaient de lui. À l'évidence, il connaissait très bien Tanchiko. Ses seigneurs, ses fonctionnaires et ses voyous paraissaient ne plus avoir de secrets pour lui. En l'écoutant, on avait d'ailleurs le sentiment qu'il n'existait guère de différence entre les trois. Quand Tom et Julin eurent pressé le contrebandier comme un citron, Ninevé fit venir Rendra et lui demanda d'apporter de quoi écrire. Lorsque ce fut fait, l'ancienne sage-dame rédigea une description détaillée de chaque sœur noire. Quand elle lui tendit ces documents, Domon les saisit et les brandit maladroitement, comme s'il s'agissait des femmes elles-mêmes. Cela posé, il promit que ces hommes présents dans le port ouvriraient l'œil. Et quand Ninevé lui rappela que les espions devraient être très prudents, il éclata de rire, comme si elle venait de lui dire de ne pas se couper avec sa propre épée. Julin partit sur les talons de Domon. À l'entendre, la nuit était le meilleur moment pour trouver les voleurs et ceux qui vivaient de leur larcin. Ninevé annonça qu'elle se retirait dans sa chambre, afin de prendre un peu de repos. Remarquant qu'elle semblait un peu hésitante sur ses jambes, Elaine comprit vite pourquoi. Au fil du temps, Ninevé s'était habituée au tangage permanent du voltigeur des flots. À présent, elle avait la nausée parce que le sol ne tanguait plus. Décidément, l'estomac de cette femme n'était pas un compagnon de voyage très plaisant. Elaine suivit Tom dans la salle commune, où il avait promis à Rendra de donner une représentation. Coup de chance formidable, elle trouva un banc et une table libre. Quelques regards glaciaux suffirent à dissuader les clients soudain très désireux de venir s'asseoir là. Rendra apporta à Elaine une coupe de vin, qu'elle sirota en écoutant Tom jouer de la harpe et chanter de très jolies chansons, comme « La première rose de l'été » ou « Le vent qui fait trembler les saules ». Elle apprécia aussi le répertoire plus léger du trouvert, par exemple « Une seule botte » ou « La vieille oie grise ». Tapant sur leur table en guise d'applaudissement, les clients aussi semblaient satisfaits. Après un moment, Elaine se mit elle aussi à marteler sa table de coups de poing. Elle n'avait pas bu plus de la moitié de sa coupe, mais un jeune et beau serveur la remplissait régulièrement en lui souriant. Cette aventure était follement excitante. De toute sa vie, Elaine n'avait pas dû s'asseoir dans une salle commune d'auberge plus de 5 ou 6 fois. Et jamais pour savourer du vin et se laisser divertir comme une personne parfaitement normale. Balayant l'air avec sa cape multicolore, histoire de souligner ses effets, Tom raconta une histoire, Mara et les trois rois stupides, et plusieurs anecdotes sur Anla la conseillère philosophe. Puis il déclama un long extrait de la grande quête du corps. Avec son talent coutumier, il donna l'impression au public que les chevaux se cabraient et que les corps sonnaient dans la salle commune, où des hommes et des femmes venus du passé se battaient, aimaient et mouraient. S'interrompant de temps en temps pour s'humecter la gorge, des pauses qui incitaient son auditoire à le bisser bruyamment, Tom chanta et récita jusqu'à très tard dans la nuit. Assise dans un coin, son instrument sur les genoux, la joueuse de dulcimer le foudroyait du regard. Sous une pluie de pièces, Tom avait dû enrôler un gamin pour les collecter. Un succès, à n'en pas douter, que la musicienne n'avait jamais connu. Tom jouait merveilleusement de la harpe et il chantait à la perfection. Certes, c'était un trouvert, mais il semblait plus doué que ses collègues. Elaine aurait juré qu'elle avait déjà entendu interpréter « La grande quête », mais en haut chant. Comment était-ce possible pour un modeste trouvert? Bien après minuit, Tom s'inclina, gratifia son public d'un ultime effet de cape et se dirigea vers l'escalier sous un tonnerre d'applaudissements, enfin de coups de poing sur les tables, Elaine frappant la sienne avec le même enthousiasme que les autres spectateurs. Quand elle voulut se lever, la jeune femme retomba en arrière et se rassit plutôt violemment. Surprise, elle regarda sa coupe de vin et constata qu'elle était pleine. Pourtant, elle avait bien bu un peu, non? Bizarrement, elle avait le tournis. Quant à sa coupe, se souvint-elle, le charmant serveur aux yeux marrons l'avait régulièrement remplie. Oui, mais combien de fois? Au fond, ça ne comptait pas. Elaine ne buvait jamais plus d'une coupe de vin. Jamais. Si elle était mal assurée sur ses jambes, ça venait du retour sur la terre ferme, comme pour Ninevée. Voilà tout. Après s'être levée beaucoup plus prudemment, en déclinant les offres d'assistance du serveur, Elaine réussit à gravir les marches, un exploit méritoire, vu la manière dont elle tanguait. Au lieu de s'arrêter au premier étage, où était sa chambre, elle continua jusqu'au deuxième et alla frapper à la porte de Tom. Le trou vert ouvrit lentement et regarda plusieurs fois dans le couloir. Un instant, Elaine crut qu'il tenait un couteau, mais elle ne vit plus rien la seconde d'après. Bizarre. Elaine saisit une extrémité de la longue moustache blanche du trou vert.
« Je me souviens, »
dit-elle. Sa langue semblant ne pas fonctionner normalement, les mots paraissaient pâteux.
« Assise sur tes genoux, je tirai sur ta moustache. »
Elaine tira, histoire d'illustrer son propos, et le trou vert fit la grimace.
« Penché par-dessus ton épaule, ma mère riait de me voir faire. »«
Tu devrais aller te coucher, »
dit Tom en tentant de dégager sa moustache.
« Un peu de repos ne te fera pas de mal. »
Elaine refusa de lâcher prise. En fait, s'avisa-t-elle, elle avait réussi à pousser le trou vert dans sa chambre en tirant sur sa moustache.
« Ma mère aussi s'asseyait sur tes genoux. Je m'en souviens. »
« Une bonne nuit de sommeil, Elaine. Demain matin, tu t'en sentiras bien mieux. »
Tom réussit à se dégager. Alors qu'il tenta d'expulser sa visiteuse, elle le contourna et tituba vers le lit. Hélas, il n'avait pas de montant. Si elle avait pu s'y accrocher, la chambre aurait peut-être cessé de tourner comme une toupie.
« Je veux savoir pourquoi ma mère s'asseyait sur tes genoux. »
Voyant Tom reculer, Elaine s'aperçut qu'elle avait de nouveau tenté de le saisir par la moustache.
« Tu es un trou vert. Ma mère ne s'assiedrait pas sur les genoux d'un trou vert. »
« Au lit, mon enfant. »
« Je ne suis plus une enfant. »
Elaine tapa du pied et faillit s'étaler. Pourquoi le sol était-il plus bas qu'il en avait l'air ?«
Plus une enfant. Tu vas me répondre. Et vite !»
Tom soupira et secoua la tête.
Ah, « n'ai pas toujours été un trou vert. Jadis, j'étais un barde de cour. À Kemlin, pour la reine Morgaz. Tu étais enfant et tes souvenirs ne sont pas exacts.
« Tu étais son amant, c'est ça ?»
À la façon dont Tom scia, Elaine sut qu'elle avait deviné juste.
« C'est ça ! Pour Gareth Bryne, je l'ai toujours su. En tout cas, je l'ai compris. Mais j'ai toujours espéré qu'elle l'épouserait. Gareth Bryne, toi et le seigneur Gaibril. Matt dit qu'elle le regardait avec des yeux de poisson mort d'amour. Combien d'autres hommes ? En quoi est-elle différente de Berelaine qui entraîne dans son lit tous les hommes qui lui tapent dans l'œil ? Elle est pareille. »
La vision d'Elaine se brouilla et ses oreilles bourdonnèrent. Malgré ses manifestations, il lui fallut un moment pour comprendre que Tom venait de la gifler. La gifler ? Elle se redressa, regrettant que le trou vert juge bon d'osciller de droite à gauche.
« Comment oses-tu ? Je suis la fille héritière d'Andorre, et il est hors de question que… »«
Tu es une gamine qui a bu un coup de trop et qui pique une crise !»
coupa Tom.
« Si je t'entends répéter des horreurs pareilles sur ta mère, à jeun ou ivre morte, tu te retrouveras sur mes genoux pour recevoir une fessée, pouvoir de l'unique ou non. Morgaz est une femme de valeur. Aucune de vous n'a de leçon à lui donner. »«
C'est vrai, elle est si bien que ça !»
Sa voix tremblant bizarrement, Elaine s'avisa qu'elle pleurait.
« Alors pourquoi ?»
Sans savoir comment, la jeune femme se retrouva blottie contre l'épaule de Tom, qui lui caressait les cheveux.
« Les reines sont très seules, » souffla le trou vert. « Beaucoup d'hommes sont attirés par le pouvoir et ne voient pas la femme qu'il exerce. Moi, je m'intéressais à la femme, et elle le savait. Ce doit être pareil pour Bryne et pour Gabriel. Il faut que tu comprennes, petite. Chaque être humain a besoin que quelqu'un l'aime et s'occupe de lui. Tout le monde veut avoir une personne à chérir. Les reines ne font pas exception à la règle.
« Pourquoi es-tu parti ? Tu me faisais tellement rire. Et elle aussi. Tu me portais sur tes épaules. »
« C'est une longue histoire. Je te le raconterai une autre fois, si tu me le demandes. Avec un peu de chance, tu auras tout oublié demain matin. Elaine, tu devras aller te coucher. »
Pendant que le trou vert la guidait vers la porte, Elaine se débrouilla pour tirer de nouveau sur sa moustache.
« Je faisais comme ça. Oui, exactement comme ça. »«
C'est vrai. Tu vas pouvoir descendre seul ?»«
Bien sûr que oui.
Malgré le regard dédaigneux de la jeune femme, Tom semblait bien décidé à la suivre dans le couloir. Pour lui prouver que c'était inutile, elle marcha très prudemment jusqu'au palier. Quand elle s'engagea dans l'escalier, il la suivit du regard, campé sur le seuil de sa chambre. Miraculeusement, Elaine ne trébucha pas avant d'être hors du champ de vision du trou vert. Au premier étage, elle rata sa porte et dut faire demi-tour. La faute de la gelée de pommes, sûrement. Elle en avait trop mangé, voilà tout. Lini disait toujours « Bon, elle ne se rappelait plus, mais ça avait un rapport avec ce goinfré de sucrerie. » Deux lampes brûlaient dans la chambre, une sur la table de chevet et l'autre sur le manteau de la cheminée. Tout habillée, Nineveh était étendue sur le dessus de lit, avec les coudes largement écartés, nota Elaine. Sans trop savoir pourquoi, elle dit les premières choses qui lui passèrent par l'esprit.
« Rand doit penser que je suis folle, Tom est un barde, et Père Elaine n'est pas ma mère. »
Nineveh foudroya du regard la fille héritière.
« Pour une raison inconnue, j'ai la tête qui tourne. Un garçon aux très jolis yeux a proposé de m'aider à monter. Très gentil à lui. »
maugréa Nineveh. Elle se leva, approcha d'Elaine et lui passa un bras autour des épaules.
« Viens avec moi. Je voudrais te montrer quelque chose. »
Étonnée, Elaine découvrit qu'il s'agissait d'un seau d'eau posé sur le sol dans le coin toilette.
« Agenouillons-nous toutes les deux pour que tu puisses bien voir. »
Elaine obéit, mais elle ne vit rien dans ce fichu seau, à part son reflet dans l'eau. Pourquoi affichait-elle ce sourire béat? La main de Nineveh glissa sur la nuque de sa compagne et elle lui plongea la tête dans l'eau. Battant des bras, Elaine tenta de se relever, mais la main de Nineveh pesait sur sa nuque, solide comme une barre de fer. Sous l'eau, n'était-on pas censé retenir sa respiration? Oui, bien sûr, mais comment s'y prenait-on? Faute de s'en souvenir, Elaine but la tasse jusqu'à la lit. Quand Nineveh la sortit du seau, elle emplit ses poumons et croassa.
« Comment oses-tu? Je suis la fille héritière du... »
Un nouveau plongeon dans le seau coupa la chic à Elaine. Saisir le bord à deux mains et pousser ne donna rien. Idem pour taper des pieds sur le sol. Allait-elle se noyer? Nineveh envisageait-elle de la tuer? Après ce qui lui parut une éternité, Elaine fut ramenée à l'air libre. Alors que des mèches trempées pendaient devant ses yeux, elle parvint à déclarer, presque dignement,
« Je crois que je vais être malade. »
Nineveh lui ayant glissé juste à temps une cuvette sous le menton, l'héritière d'Andorre vomit tout ce qu'elle avait pu boire et manger depuis le jour de sa naissance. Une bonne année plus tard, enfin quelques heures au minimum, Elaine reprit conscience et s'avisa que sa tortionnaire lui nettoyait le visage, les mains et les poignets. Cela dit, elle n'entendit aucune compassion dans la voix de Nineveh quand elle parla.
« Comment as-tu pu faire ça? Qu'est-ce qui t'a pris? D'un abruti d'homme, on peut toujours attendre qu'il boive jusqu'à ne plus tenir debout. Mais toi? Surtout ce soir.
« Je n'ai bu qu'une coupe !»
se défendit Elaine. Avec le zèle du jeune serveur, peut-être deux, mais sûrement pas plus.
« Une coupe de la taille d'une carafe, oui !»
Agacée, Nineveh aida la jeune femme à se relever, ou plutôt la tira sans ménagement.
« Tu crois pouvoir rester éveillée? Je vais tenter de trouver Egwen, et je n'ai pas assez confiance en moi pour entrer dans tel Aranriod sans quelqu'un pour me réveiller. »
Elaine en cligna des yeux de surprise. Depuis qu'Egwen s'était volatilisée lors de la rencontre dans le cœur de pierre, elles avaient cherché à la contacter chaque nuit sans le moindre résultat.
« Rester éveillée? Nineveh, c'est mon tour d'y aller. De toute façon, il vaut mieux que ce soit moi, puisque tu ne peux pas canaliser sans être en colère. »
Elaine s'avisa soudain que l'aura du Saïdar enveloppait sa compagne. Il devait en être ainsi depuis un bon moment, comprit-elle. Mais comme si sa tête était bourrée de laine, les pensées et les perceptions y circulaient au ralenti. Et elle sentait à peine la source authentique.
« Au fond, si tu y vas, ça ne sera pas plus mal. » « Je ne m'endormirai pas. »
Nineveh plissa dubitativement le front, mais elle finit par acquiescer. Elaine tenta de l'aider à se dévêtir, mais ses doigts refusèrent de s'embêter avec de si petits boutons. En grommelant des amabilités, l'ancienne sage-dame se débrouilla toute seule. Quand elle fut en sous-vêtements, elle ajouta l'anneau de pierre à face unique à la lanière de cuir qu'elle portait autour du cou et où pendait déjà une chevalière d'homme. Celle de l'âne, un bijou que Nineveh cachait toujours au creux de sa poitrine. Pendant que son amie s'allongeait, Elaine tira près du lit un tabouret de bois. Elle avait sommeil, certes, mais sur un siège si inconfortable, elle ne piquerait sûrement pas du nez. En revanche, allait-elle réussir à ne pas en tomber par manque d'équilibre?
« Je te réveillerai dans environ une heure. »
Nineveh ferma les yeux, les mains reposant sur ses deux bagues. Assez vite, sa respiration devint plus profonde. Le cœur de la pierre était désert. Tout en sondant la pénombre entre les colonnes, Nineveh décrivit un grand cercle autour de Kalandor, Plantée dans le sol, l'arme brillait de tous ses feux, avant de s'apercevoir qu'elle était toujours en sous-vêtements, deux bagues oscillant sur sa poitrine au gré de ses mouvements. Un instant plus tard, elle se retrouva vêtue d'une robe de laine de Deux-Rivières et d'une solide paire de bottines. Pour Elaine et Gwen, changer à volonté de tenue dans le monde des rêves semblait être un jeu d'enfant. Pour elle, il en allait autrement. Lors de ses précédentes incursions dans Tel Aran Riod, elle avait connu quelques moments embarrassants, surtout lorsqu'elle pensait accidentellement à Lan. Mais se changer volontairement lui demandait une intense concentration. En revanche, si elle laissait libre cours à ses fantasmes, le simple fait d'y penser, et voilà qu'elle se retrouva affublée d'une robe de soie aussi transparente que le voile de Rendra. Là-dedans, Berelaine elle-même aurait rougi jusqu'aux oreilles. Imaginant que Lan la voyait dans cette tenue, Nineveh sentit le rouge lui monter aux joues. Se reprenant, elle rappela la robe de laine marron. Avec tout ça, sa colère n'était plus qu'un souvenir. Sacrée Elaine. Ignorait-elle donc ce qui arrivait quand on levait trop le coude? Ce n'était quand même pas la première fois qu'on la laissait seule dans une salle commune d'auberge. Au fond, peut-être que si. Quoi qu'il en soit, lorsqu'elle était calme, la source authentique aurait très bien pu ne pas exister pour Nineveh. Avec un peu de chance, ça ne lui nuirait pas. Mal à l'aise, elle sonda la forêt de colonnes de pierre rouge. En tournant sur elle-même, elle se demanda pourquoi Egwen avait disparu si brutalement. Un parfait silence régnait dans le cœur de la pierre, au point que Nineveh entendait le sang battre à ses tempes. Pourtant, quelque chose a démangé entre les omoplates, comme si quelqu'un était en train de les pied.
« Egwen !»
cria-t-elle, l'écho de son appel se répercutant entre les colonnes.
« Egwen !»
Pas de réponse. Nineveh voulut se frotter les mains sur le devant de sa robe et découvrit qu'elle brandissait une petite branche ratatinée terminée par un gros bouton. Bref, un objet qui lui serait d'une extraordinaire utilité. Elle le serra quand même plus fort. Bien sûr, une épée aurait été plus utile. Un instant, la branche fut mine de se transformer en lame. Mais comme elle était ignare en escrime, Nineveh eut un petit rire amer. Ici, un gourdin ou une épée étaient à peu près aussi inutiles l'un que l'autre. Pour se défendre, il fallait canaliser, ou savoir courir très vite. Se sentant absurdement calme, la jeune femme comprit qu'elle n'aurait pas l'embarras du choix. Elle aurait bien couru pour échapper à son espion, mais renoncer si vite n'était pas son genre. Cela dit, que devait-elle faire? Egwen n'était pas ici, mais dans le désert des Aiels. Arwidéan, où que ça pût être. Au milieu d'une enjambée, Nineveh se retrouva soudain sur le flanc d'une montagne. Un soleil de plomb transformait en fournaise la vallée qui s'étendait au pied du pic. Le désert des Aiels. Elle était dans le désert des Aiels. Mais ce soleil levant, eh bien, si loin à l'est de Tanchico, où il faisait encore nuit, il semblait logique qu'on en soit déjà à l'aube. De toute façon, dans le monde des rêves, tout était possible, sans qu'il y ait nécessairement cohérence avec l'univers normal. De longues ombres couvraient pratiquement la moitié de la vallée. Bizarrement, une nappe de brume y flottait comme une muraille, et les premiers assauts du soleil ne paraissaient pas devoir la faire disparaître. De très hautes tours émergeaient de ce brouillard, certaines donnant l'impression d'être inachevées. Une ville dans ce désert? En plissant les yeux, Nineveh distingua une silhouette dans la vallée. Un homme, apparemment, même si la distance interdisait de l'affirmer. L'inconnu portant un pantalon large et une veste bleue vif, il ne s'agissait pas d'un aïeul. Marchant le long de la muraille de brume, il s'arrêtait de temps en temps pour la tapoter. Enfin, pour essayer, car on eût dit que sa main rencontrait un obstacle invisible. Au fond, il ne s'agissait peut-être pas de brume.
« Tu devrais filer d'ici !»
dit une voix de femme.
« Si cet homme te voit, tu mourras. Ou pire, si tu n'as pas de chance. »
La femme qui se tenait un peu plus haut sur la pente portait une veste courte blanche et un pantalon jaune clair bouffant resserré au-dessus de ses bottes. Alors que sa cape claquait au vent, Nineveh remarqua enfin ses longs cheveux blonds tressés et l'arc en argent qu'elle brandissait. Un nom vint à l'esprit de l'ancienne sage-dame, qui en resta un instant muette.
« Birgit ! »
finit-elle par couiner. Héroïne de centaines de récits, Birgit était célèbre pour l'arc d'argent avec lequel elle ne ratait jamais sa cible. Comme d'autres héros défunts, elle serait rappelée de la tombe par le corps de Valère quand viendrait l'heure de l'ultime bataille.
« C'est impossible ! Qui êtes-vous ? Nous n'avons pas le temps de parler, femme. Tu dois partir avant qu'il te voie. »
Birgit prit une flèche d'argent dans le carquois accroché à sa ceinture, l'encocha et arma son arc, le braquant sur le cœur de Nineveh.
« Va-t'en ! »
Nineveh s'enfuit et se retrouva sur la place verte de Champ des Mondes, en train de regarder l'auberge si reconnaissable avec ses cheminées et son toit de tuiles rouges. Tout autour de la place, des maisons au toit de chaume semblaient protéger la saillie rocheuse d'où jaillissait la cascade à vin. Alors que le territoire de Deux-Rivières s'étendait très loin à l'ouest du désert d'Azaïel, le soleil, ici, était déjà haut dans le ciel. Bizarrement, en l'absence de nuages dans le ciel, une ombre menaçante enveloppait le visage comme un linceul. Ninevé eut à peine le temps de se demander comment les villageois s'en sortaient sans elle. Captant un mouvement du coin de l'œil, elle repéra une sorte d'éclair d'argent, puis distingua une femme accroupie au coin de la maison d'Aïlis Canwyn, de l'autre côté de la rivière. Birgit. Sans hésiter, Ninevé courut jusqu'à une des passerelles qui enjambait le cours d'eau et s'y engagea, ses semelles produisant un vacarme épouvantable sur les planches disjointes.
« Venez ici !»
cria-t-elle.
« Vous avez des réponses à me donner ! Qui est cet homme ? Venez, ou je vais vous montrer ce que je fais au héros, moi ! Quand je vous aurai rossé, vous verrez ce que c'est d'être un simple mortel qui a mal partout !»
Quand elle arriva au coin de la maison, Ninevé ne s'attendait pas vraiment à y trouver Birgit. Surtout, elle ne s'attendait absolument pas à se retrouver face à un homme en veste noire qui avançait vers elle dans la rue en terre battue. À moins de 100 pas de distance, Ninevé le reconnut. L'âne. Non, pas vraiment. Mais cet homme avait les mêmes yeux que le champion et un visage aux contours identiques. S'arrêtant, il leva son arc et tira. La jeune femme se jeta à terre, hurla de terreur et tenta de ramper loin de son meurtrier. Quand Ninevé s'assit dans le lit en criant, Elaine se leva d'un bond, renversant son tabouret.
« Que s'est-il passé, Ninevé ? Qu'est-il arrivé ?»
L'ancienne sage-dame frissonna.
« Il ressemblait à l'âne, et il a tenté de me tuer. »
Ninevé posa une main tremblante sur son bras gauche, un peu au-dessous de l'épaule. Du sang coulait d'une longue plaie.
« Si je n'avais pas plongé au sol, la flèche se serait fichée dans mon cœur. »
Elaine s'assit au bord du lit et examina la blessure.
« Rien de grave. »
annonça-t-elle. «
Je vais nettoyer la plaie, puis je te ferai un pansement. »
La fille héritière regretta d'être incapable de guérir. Mais essayer quand on ne savait pas pouvait être un remède pire que le mal. De toute façon, ce n'était qu'une entaille. Et puis, elle avait la tête bien trop embrumée, ou pleine de gelée de pommes, pour réfléchir à des choses si compliquées.
« Ce n'était pas l'âne, alors calme-toi. Tu sais que ce n'était pas l'âne, pas vrai ?»« Bien sûr !»
Toujours indignée, Ninevé raconta ce qui lui était arrivé. L'homme qui lui avait tiré dessus à Champ-des-Mondes et celui du désert pouvaient être la même personne, ou non. Quant à Birgit, quelle improbable rencontre.
« Birgit ?»
demanda Elaine.
« Tu en es certaine ? Bien sûr que non !»
soupira Ninevé.
« La seule certitude, c'est que je n'ai pas trouvé Egwene, et que je n'y retournerai pas ce soir. »
Elle se flanqua un coup de poing sur la cuisse.
« Où est-elle ? Et que lui est-il arrivé ? Si elle a rencontré ce type avec son arc, par la lumière, pourvu que ça ne soit pas ça !»
Morte de sommeil et les idées confuses, Elaine se força à réfléchir quelques instants.
« Elle a dit qu'elle ne serait peut-être pas là à nos prochains rendez-vous. Qui sait ? C'est peut-être pour ça qu'elle est partie si soudainement. Parce qu'elle ne pouvait pas... bien... »
Avec la gelée et le reste, la fille héritière dut se rendre à l'évidence. Elle n'était pas en état de tenir un discours cohérent.
« J'espère que tu as raison. Et maintenant, on devrait se mettre au lit. Sinon, tu vas finir par dormir debout. »
Elaine se réjouit que son amie l'aide à se déshabiller. Elle n'avait pas oublié la blessure ni le pansement, mais le lit semblait si séduisant. Au matin, peut-être, le monde aurait cessé de tourner. Une fois la tête posée sur l'oreiller, la jeune femme s'endormit comme une masse. En se réveillant, Elaine regretta de ne pas être morte dans son sommeil. Alors que le soleil se levait à peine, assise à une table de la salle commune déserte, elle baissa les yeux sur la chope que Ninevé lui avait apportée avant de partir en quête de l'aubergiste. Chaque fois qu'elle respirait, l'odeur de l'infusion lui montait aux narines, lui retournant l'estomac. Quant à sa tête, non, c'était impossible à décrire. Mais si quelqu'un avait proposé de la lui couper, elle aurait accepté avec gratitude.
« Tu vas bien ?»
Elaine sursauta au son de la voix de Tom.
« Très bien, merci. »
Le simple fait de parler était une torture. Désorienté, le trouvère se lissa la moustache.
« Tom, tes histoires étaient formidables hier soir. Enfin, celles dont je me souviens. Je ne me rappelle pas grand-chose d'autre, à vrai dire. J'étais assise à une table et en t'écoutant, j'ai dû manger trop de gelée de pommes. »
Pas question d'admettre qu'elle avait trop bu, d'autant plus qu'elle ignorait quelle quantité se cachait sous ce trop. quant à la façon dont elle s'était ridiculisée dans la chambre du Trouvert, non, ça, plus que tout, ce devait être à jamais occulté. Voyant le soulagement de Tom, Elaine supposa qu'il la croyait. Ninevé revint, tendit une serviette humide à Elaine et s'assit. Puis elle poussa vers son amie la chope remplie d'une ignoble décoction. Elaine posa la serviette humide sur sa nuque et ferma les yeux.
« Un de vous deux a vu Maître Sandar aujourd'hui ?»
demanda Ninevé.
« Il n'a pas dormi dans notre chambre, »
répondit Tom.
« Une chance pour moi, vu la taille du lit. »
Comme si parler de lui l'avait fait venir, Julien entra dans l'établissement, l'air épuisé et les vêtements froissés. Un cocard sous l'œil gauche, la chevelure en bataille. D'habitude, il était impeccablement coiffé. Il paraissait néanmoins très content de lui.
« Les voleurs dans cette ville sont plus nombreux que des verrons au milieu de roseaux. Pour les faire parler, il suffit de leur payer à boire. J'ai discuté avec deux types qui ont vu une femme arborant une mèche blanche au-dessus de l'oreille gauche. Et l'un des deux ne mentait pas.
« Elles sont donc ici ?»
souffla Elaine.
« Peut-être, »
corrigea Ninevé.
« D'autres femmes peuvent avoir une mèche blanche au-dessus de l'oreille gauche. »
« Le type n'a pas pu me préciser l'âge de la femme. »
dit Julien en dissimulant un bâillement derrière sa main.
« Une personne sans âge, disait-il. Pour plaisanter, il a même lancé qu'il s'agissait peut-être d'une Aes Sedai.
« Tu vas trop vite, »
dit Ninevé.
« Si tu attires l'attention de nos ennemis sur nous, ça ne nous aidera pas. »«
Je suis très prudent. L'idée que Liandrine me remette la main dessus suffit à me calmer. Pour ne pas attirer l'attention, je ne pose pas de questions, je bavarde. Parfois, sur des femmes que je fais mine d'avoir connues. Deux types ont accroché à la mèche blanche. » Et aucun ne s'est douté qu'il s'agissait d'autre chose que d'une conversation de taverne au-dessus d'une chope de bière. Ce soir, un autre poisson se prendra peut-être dans mes filets. Qui sait ? Il s'agira peut-être d'une beauté du Kairien aux grands yeux bleus.
La description de Temeil Kinderode.
Peu à peu, je limiterai le champ des localisations possibles. Et un jour, je saurai où elles sont. Oui, je les trouverai. À moins que ce soit moi qui les déniche.
Intervint Tom, visiblement convaincu que c'était le plus probable.
Au lieu de frayer avec des voleurs, elles doivent fréquenter des nobles et des politiciens. Un seigneur va finir par se comporter bizarrement, et je n'aurai plus qu'à suivre la piste.
Les deux hommes se défièrent du regard. Encore un effort, et un des deux allait proposer un duel à l'autre. Les hommes, quand même. D'abord Julien et Domon, puis Julien et Tom. Pour changer un peu, Tom et Domon finiraient bien un jour par se taper dessus. Les hommes. Des sales gamins. Voilà tout ce qu'on pouvait en dire.
« Elaine et moi, »
fit Ninevé,
« nous les trouverons peut-être sans vous. Aujourd'hui, nous allons nous mettre en chasse. »
Elle coula un regard en coin à Elaine.
« Enfin, moi, je vais m'y mettre. Notre jeune ami a besoin de se reposer de la fatigue du... voyage. »
Elaine posa la serviette sur la table, prudemment pour ne pas brusquer sa pauvre tête, puis elle saisit la chope à deux mains et but. Le liquide visqueux et verdâtre était encore plus infect que son odeur le laissait présager. Quand il s'écrasa au fond de son estomac, la jeune femme eut le sentiment d'avoir avalé un sac de pierre.
« Deux perdues valent mieux qu'une, chère Ninevé. »
Sur ces mots, Elaine reposa la chope d'un geste presque assuré.
« Et 100 paires sont encore plus efficaces. »
intervint Julien.
« Si ce capitaine de barque ilianien mobilise vraiment ses hommes, avec les voleurs, ça nous fera au moins ça comme espions. Nous trouverons ces femmes pour vous. »
affirma Tom.
« Inutile que vous sortiez de l'auberge. Même si Liandrine n'y est pas, cette ville est dangereuse. De plus,
renchérit Julien,
ces femmes vous connaissent. Donc si elles sont là, il vaut mieux que vous ne vous montriez pas.
Elaine regarda les deux hommes avec un ébahissement sincère. Quelques instants plus tôt, ils semblaient prêts à s'étriper. Et voilà qu'ils s'entendaient comme larrons en foire. Ninevé ne s'était pas trompé en disant qu'il serait une source de problèmes. Mais la fille héritière du royaume d'Andorre n'allait pas se cacher derrière Maître Julien Sandar et Maître Tom Merilyn. Alors qu'elle allait leur en faire part, Ninevé lui brûla la politesse.
« Vous avez raison, »
dit-elle, étonnamment sereine. Elaine n'en crut pas ses yeux. Les deux hommes parurent surpris, certes, mais surtout hautement satisfaits.
« Elles nous connaissent, c'est vrai, »
continua Ninevé.
« Mais ce matin, je me suis occupé de ce problème. Bien, voilà maîtresse Rendra avec notre petit déjeuner. »
Tom et Julien échangèrent des regards perplexes, mais en présence de l'aubergiste, ils furent bien obligés de tenir leur langue.
« Et ce que je vous ai demandé ?»
dit Ninevé, alors que Rendra posait devant elle un bol de bouillie d'avoine au miel.
« Oui, oui. Trouver des vêtements pour vous deux sera un jeu d'enfant. Pour vos cheveux,
Ils sont si beaux, si longs. Ça ne sera pas difficile non plus.
Rendra tapota ses tresses blondes d'un air entendu. La tête que tirèrent Julien et Tom arracha un sourire à Elaine malgré sa gueule de bois. Prêts à polémiquer sans fin, les deux hommes n'avaient plus d'angle d'attaque si on les traitait par le mépris. Accessoirement, la jeune femme s'avisa que sa tête allait un peu mieux. L'horrible décoction de Ninevée, sans doute. Tandis que l'ancienne sage-dame parlait de prix, de coupe et de tissu, Rendra voulait faire copier sa robe vert pâle plutôt voyante et la résistance de Ninevée faiblissait. Elaine prit une cuillerée de bouillie pour chasser le mauvais goût de la potion. Cette initiative réveilla son appétit. Il restait cependant un problème que Ninevée et elle n'avaient pas mentionné et dont Tom et Julien n'étaient pas informés. Si les sœurs noires étaient à Tanchico, le mystérieux objet, capable de mettre en danger Rande, y était aussi. Un objet susceptible de l'emprisonner avec son propre pouvoir. Trouver Liandrine et ses complices ne suffirait pas. Une deuxième mission suivrait. Elaine en perdit aussitôt son appétit.